Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 2 août 2017. Marche de l'opposition en Guinée pour réclamer la tenue des élections locales. Référendum en Mauritanie, le seul parti appelant au non dénonce une campagne inégalitaire. Deuxième jour de grève illimitée des salariés du CHU de Brazzaville. Donald Trump signe les sanctions contre la Russie. La chaleur extrême risque de rendre l'Asie du Sud invivable d'ici 2100, selon une nouvelle étude. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. En Guinée, l'opposition a tenu un grand meeting à Conakry après une marche pacifique pour réclamer l'application des accords politiques. Les Guinéens attendent depuis des années l'organisation des élections locales. Lundi, le président Alpha Condé a demandé aux autorités concernées le respect des accords en question, mais l'opposition dit attendre plus que des paroles. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Après plus de 15 km de marche sous un soleil de plomb, les manifestants forment une foule devant le stade 28 septembre de Conakry. C'est sur un espace équivalent à 90% d'un terrain de football rempli que tour à tour, les leaders ont harangué une foule acquise à leur cause. Des opposants au régime d'Alpha Condé sortis exprimer leurs sentiments, certains à travers des pancartes, non à la corruption, construisez nos routes, pouvait-on lire. Mais des messages politiques aussi, les élections communales et maintenant, messages écrits sur des banderoles. C'est le chef de file de l'opposition qui prononce le dernier discours. Corruption, injustice, malnutrition ne sont pas des fatalités, c'est accuse. C'est le d'Alain Diallo, la conséquence de la mauvaise gestion du pays.
Dans toutes les préfectures aujourd'hui, les Guinéens souffrent de faim, de malnutrition, mais aussi d'injustice, d'arbitraire, d'insécurité, d'insalubrité.
Le peuple guinéen n'acceptera plus de mascarade électorale, a conclu l'opposant Cellou d'Alain Diallo. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a appelé à un oui massif pour le référendum de samedi. Il accuse l'opposition de vouloir créer le chaos. Et Kiabadou.
Quelques 1,4 million de Mauritaniens sont appelés à se prononcer samedi sur un projet de révision de la Constitution. Le principal changement est la suppression du Sénat. Mardi soir, le président Abdelaziz a promis de faire des révélations. Il accuse les sénateurs opposés au projet de corruption et invite le peuple à éliminer cette chambre dangereuse pour l'avenir du pays et de sa démocratie. L'unique parti de l'opposition, dirigé par M. Ould Beta, appelle à voter non et dénonce une campagne inégalitaire. En mars, ce projet de révision de la Constitution a été adopté par les députés, mais rejeté par les sénateurs. Le chef de l'État a donc décidé de passer outre. Samedi, les électeurs auront aussi à se prononcer sur la modification du drapeau national. Les résultats seront connus la semaine prochaine.
Au Nigeria, au moins 6 personnes ont été tuées dans une attaque de Boko Haram contre le village de Mildou dans l'état de l'Adamawa, selon un porte-parole du gouvernement local. Les insurgés ont mis le feu à plusieurs maisons et magasins, forçant les villageois à fuir leur foyer. Toujours au Nigeria, 42 hommes accusés d'être homosexuels ont été arrêtés le week-end dernier à Lagos. Ils sont toujours en garde à vue après un raid de la police dans un hôtel. L'homosexualité est un délit au Nigeria. La présidente sortante du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a annoncé qu'elle ferait activement campagne pour les femmes candidates aux élections du 10 octobre. Anastasie Tudiech.
L'ancien mannequin Magdala Cooper est la seule femme parmi les 20 candidats à la présidence. 6 autres sont sur des tickets pour la vice-présidence et plus de 15% parmi les candidats à l'Assemblée nationale sont des femmes. Ellen Johnson Sirleaf dit qu'elle fera campagne pour les femmes, assurant qu'elle veut payer sa dette à celles qui ont massivement voté pour elle en 2005 et en 2011. Elle a annoncé son soutien à son vice-président, Joseph Boakai, candidat à la magistrature suprême, mais n'a pas précisé si elle participera à sa campagne. Le sénateur George Weah, légende du football, est aussi un sérieux concurrent. Il se présente avec la sénatrice Jewel Taylor, ancienne épouse de l'ancien président Charles Taylor. Madame Sirleaf, 78 ans, prix Nobel de la paix, a été la première femme élue chef d'État en Afrique. La loi l'empêche de se représenter après ses deux mandats. Il est très peu probable qu'une femme lui succède à la tête de l'État.
La mission de l'ONU en RDC a exprimé aujourd'hui sa préoccupation face aux arrestations et détentions arbitraires survenues lundi lors de rassemblements pacifiques dans différentes régions. Les Nations Unies ont relevé plus de 120 cas d'arrestations selon Maman Sidikou, chef de la MONUSCO, qui ajoute que la plupart de ces personnes ont été libérées. Les salariés du plus grand hôpital public du Congo ont poursuivent depuis mardi une grève illimitée avec service minimum à Brazzaville pour réclamer 2 mois d'arriéré de salaire. Les grévistes revendiquent également des indemnités de fin de carrière et des allocations familiales, a indiqué Albert Ngadze Oko de l'intersyndicale des travailleurs du CHU à l'origine de la grève. Le gouvernement ivoirien a annoncé la nomination d'un nouveau patron pour la filière cacao qui traverse une crise avec la chute des cours mondiaux. La directrice générale du conseil du café cacao, Masanje Touré-Litse, critiquée pour sa gestion de la crise, a été remplacée par Yves Brahima Kone, a annoncé le porte-parole du gouvernement Bruno Kone à l'issue du conseil des ministres. Un bateau de l'ONG allemande Jugendrettet, soupçonné d'avoir favorisé l'immigration illégale, a été placé sous séquestre ce mercredi, a annoncé la police italienne. Le Juventa a été bloqué à Lampedusa et au nord de la Libye par les gardes-côtes italiens dans le cadre d'une enquête. L'Italie a finalisé lundi un code de conduite pour les secouristes, avalisé seulement par 3 ONG. Ce code interdit aux navires des ONG d'entrer dans les eaux libyennes et de communiquer avec les passeurs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a promulgué les nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Morgane Guiriec.
Ces sanctions, qui font également suite à l'annexion de la Crimée et aux ingérences russes en Ukraine, frappent notamment le secteur énergétique russe. Elles ont entraîné des critiques dans l'Union européenne, qui craint pour son approvisionnement en gaz et dénonce une action unilatérale. L'exécutif américain n'avait pas caché ses réserves avant l'adoption des nouvelles sanctions par le Congrès, au moment où Washington tente de réchauffer ses relations avec Moscou. Les élus américains ont adopté le texte la semaine dernière à la quasi-unanimité. Le président Donald Trump a décidé de ne pas y opposer son veto, car le Congrès aurait pu facilement passer outre le non présidentiel en revotant ce projet de loi à la majorité des 2/3. La réaction de la Russie n'a pas attendu la signature de Donald Trump. Dès vendredi, elle a annoncé une prochaine réduction drastique de la présence diplomatique américaine sur son territoire.
Et sur sa page Facebook, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déploré la fin des espoirs russes pour une amélioration des relations avec la nouvelle administration américaine, accusant Washington d'avoir déclaré une vraie guerre commerciale à la Russie par ses sanctions. Donald Trump a apporté aujourd'hui son soutien à une refonte du système d'immigration légale aux États-Unis destinée à réduire le nombre d'immigrés peu qualifiés et à mettre en place un dispositif basé sur le mérite. La proposition des sénateurs républicains Tom Cotton et David Perdue donne la priorité aux personnes parlant anglais et plafonne à 50 000 par an le nombre de réfugiés obtenant l'autorisation de résider aux États-Unis. Dans le sud de l'Afghanistan, les talibans ont mené une attaque à la voiture suicide contre un convoi de l'OTAN près de Kandahar, faisant 2 morts parmi les soldats américains, selon le Pentagone. Selon un commerçant de Kandahar, le convoi se composait de 3 véhicules, dont un était en feu après l'attaque. Israël a annoncé avoir achevé la construction de 42 nouveaux kilomètres du mur de séparation avec la Cisjordanie occupée. Israël a commencé en 2002, pendant l'intifada, à construire ce mur censé le protéger des attaques venues de Cisjordanie et devant atteindre à terme 712 kilomètres. La chaleur extrême provoquée par le réchauffement climatique risque de rendre l'Asie du Sud inhabitable d'ici la fin du siècle si rien n'est fait pour réduire les gaz à effet de serre. Selon une étude publiée aujourd'hui, des vagues de chaleur mortelles pourraient même se produire d'ici quelques décennies dans des régions d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh, préviennent les scientifiques. Et l'entrée en Corée du Nord sera interdite aux citoyens américains à partir du 1er septembre, avec quelques exceptions pour des raisons humanitaires ou pour les médias. Les États-Unis avaient annoncé leur intention d'empêcher tout déplacement en Corée du Nord après la mort d'Otto Warmbier le 13 juin. Cet étudiant américain avait été rapatrié dans le coma après 18 mois de détention. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Blanche Sanou.
La BAD va investir 24 milliards de dollars dans son programme Feed Africa, ou Nourrir l'Afrique, pour promouvoir le secteur agricole et répondre aux besoins alimentaires du continent dans 10 ans. Akinwumi Adesina, le président de la BAD, a indiqué que les futurs millionnaires et milliardaires d'Afrique viendront du secteur agricole. Le programme Feed Africa est la deuxième parmi les 5 grandes priorités de la BAD. En Côte d'Ivoire, ouverture de la première chambre de commerce des entreprises chinoises pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. La Chine, troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, compte environ 40 entreprises dans la construction, l'alimentation en eau potable, l'extension du port d'Abidjan et la construction du barrage hydroélectrique de Soubré avec un montant de 331 milliards de francs CFA. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une hausse de 800% entre 2014 et 2016. Au Nigeria, la production de riz a connu une hausse avec un rendement annuel d'environ 5,7 millions de tonnes de riz. Cette augmentation de la production de riz est l'un des rares points positifs de la récession du Nigeria qui cherche son envol économique. Malgré ses vastes étendues de terres fertiles, le Nigeria reste le grand importateur et consommateur de riz.
Présent les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Neymar à Paris, le rêve devient réalité pour le PSG.
Et oui, le joueur doit arriver dans la capitale française ce mercredi. C'est l'agent du joueur Wagner Ribeiro qui l'a confirmé ce mercredi à l'aéroport de Barcelone en compagnie de Neymar et de son père. À partir du moment où Neymar m'a donné le feu vert, le 1er août, je suis allé à Paris. J'en ai ramené une proposition du PSG pour payer la clause, ce qui sera fait dans les prochaines heures, a déclaré Wagner Ribeiro qui parle d'une présentation du joueur par le club français sans doute ce week-end. Un peu plus tôt dans la journée, Neymar était venu faire ses adieux à ses coéquipiers Blaugrana du FC Barcelone.
Il s'agit donc du plus gros transfert de l'histoire.
Oui, le transfert du siècle se dessine. Le Paris Saint-Germain est sur le point de régler 222 millions d'euros. La clause libératoire du contrat du Brésilien avec le Barça. Une somme astronomique qui explose le record actuel de 105 millions d'euros hors bonus qui avait été payé l'été 2016 pour le transfert de Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United.
Les responsables du championnat espagnol n'entendent pas se laisser faire, Nicolas.
Oui, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, menace en effet de bloquer le transfert en refusant de percevoir l'argent. Tebas accuse le club français de dopage financier en recevant, je cite, « des injections économiques de pays qui offrent des joueurs à leurs supporters en les retirant à d'autres ».
Et la Ligue des champions en Europe ?
Le troisième tour préliminaire retour, l'Ajax Amsterdam est favori pour la qualification en recevant Nice ce soir après le bon résultat un partout à l'aller. Le CSKA Moscou contre l'AEK Athènes, le Baté Borisov sera contre le Slavet Prague, le FC Copenhague face à Vardar, les Young Boys de Berne contre le Dynamo Kiev, Victoria Pilsen contre le JTE à Bucarest et puis l'Olympiakos qui accueille le Partizan de Belgrade.
Être footballeuse n'est pas cher payé.
Oui, puisque la moitié des footballeuses ne sont pas payées par leur club, selon les premiers chiffres d'une étude du syndicat mondial des footballeurs qui sera dévoilée lors d'une conférence à Amsterdam la semaine prochaine. Cela souligne les écarts de rémunération entre le football féminin et masculin. À titre de comparaison, l'ensemble des primes versées lors de l'Euro 2016 masculin à 24 équipes atteignait 300 millions d'euros, tandis que pour l'Euro féminin 2017, pour les 16 équipes, elles se sont partagées seulement 8 millions d'euros selon l'UEFA.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. La force du G5 Sahel pourrait commencer son déploiement entre septembre et octobre. Une conférence des donateurs devrait se tenir fin septembre à Berlin pour la financer. Pour tenter de connaître les aptitudes de cette force militaire face aux djihadistes dans la région, Eric Manirakidza a joint à Dakar le spécialiste en paix et sécurité, Ibrahima Kané.
Il n'y a pas encore eu d'intervention de cette force qui est supposée défendre non seulement le territoire du Mali, mais défendre tous les 5 pays qui seraient agressés par des troupes djihadistes. Et donc, ça vous montre à quel point la mise en place des forces de G5, le support de la France et de l'Allemagne ne règle pas totalement le problème tant qu'un pays comme l'Algérie n'est pas partie prenante à cette entreprise.
Justement, ce problème ne se limite pas seulement aux 5 pays, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. On a vu aussi des attaques au Burkina. Faudrait-il, par exemple, impliquer la CEDEAO?
Je pense, oui, qu'il faut non seulement impliquer la CEDEAO, mais il faut aussi impliquer les États dont les forces sont aujourd'hui au Mali pour défendre l'intégrité territoriale de ce pays. Je pense par exemple aux forces sénégalaises. Elles sont parmi, en tout cas, les plus professionnelles de la région, celles qui sont en tout cas censées être très efficaces quand on les utilise. Mais bon, ces pays ne font pas partie du G5. Et si l'objectif du G5, c'est vraiment de gérer les problèmes dans cette région, je pense que la CEDEAO, naturellement, doit faire partie de la solution. Et jusqu'à présent, la CEDEAO n'est pas impliquée directement.
Il doit y avoir une conférence des donateurs fin septembre à Berlin pour lever des fonds en faveur de cette force qui devrait entrer en action entre septembre et octobre. Est-ce que vous pensez que c'est faisable?
Voilà une autre incohérence de cette approche par rapport à l'approche globale continentale concernant la paix et la sécurité sur le continent. Il y a à peine 2 ou 3 mois, l'Union africaine aussi a mis en place un fonds de la paix. Si vraiment on voulait que les États africains se sentent directement responsables, directement concernés par cette lutte, on aurait dû, ne serait-ce que pour le principe, y associer l'Union africaine à la recherche de fonds. Peut-être que ce fonds qui est déjà mis en place pourrait symboliquement contribuer au financement de ces fonds de paix. Et ce qui est encore plus grave, on va en Allemagne. Cela veut dire que l'appropriation de cette lutte par les États africains n'est pas encore d'actualité. Moi, j'aurais bien voulu cette réunion de levée de fonds se tenir au Mali, au Niger ou au Tchad, qui sont les pays directement concernés et qui contribuent quand même, qui payent un lourd tribut à cette guerre-là. Et ça, ça aurait donné vraiment une claire indication de l'intention des pays occidentaux.
Ibrahima Kané était joint à Dakar, au Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Mauritanie, le vote du référendum sur la révision de la Constitution est prévu dimanche prochain. L'opposition dénonce la mainmise du chef de l'État sur le pouvoir à ce propos. Pour une analyse, Claire Morin-Gibour a joint le journaliste Brahim Barka Sneba.
De toute façon, la campagne vit ces derniers moments et dans 72 heures, ça serait le scrutin pour le référendum. Elle bat son plein du côté de la majorité. Il ne semble pas avoir de soucis. Le régime en place gagne beaucoup de voix et mobilise beaucoup de gens. Pour ce qui est du non, là, je suis au Rodel Arbi et je ne vois pas vraiment de campagne pour le non. Je ne vois pas de campagne qu'on peut considérer comme telle.
Le parti d'opposition CDN, la Convergence démocratique nationale, dénonce une campagne inégalitaire due, selon eux, à une omerta des médias publics. Qu'en pensez-vous ?
Non. Sur ce qui est de la communication, il y a une régulation, il y a une partition du temps. Il y a des plages de temps sur les télévisions et radios qui sont gratuites. Et là, elles sont rationnées, elles sont réparties sur tous les près de 58 ou 159 intervenants. Les partis qui votent, oui, ont leur minute sur la télévision et la radio. Et quant au non, j'ai en mémoire un seul parti, le parti de la Convergence démocratique, qui vote non.
Est-ce que ce référendum provoque des tensions, selon vous ?
Oui, il me semble que les choses vont normalement. Bon, il y a bien sûr des voix dissonantes. Il y a cette campagne pour le non que j'ai qualifiée de pas très très considérable à mon sens. Je ne sais pas pourquoi vraiment, mais elle n'est pas de grande ampleur. Mais en ce qui concerne lui, je pense qu'il va l'emporter afin de tenir à l'ambiance et à la situation. Montre que le pouvoir en place appuie d'une façon ou de l'autre non mobilisé.
Il y a eu quand même quelques marches hostiles à ce référendum qui ont été réprimées.
Normal, c'est réconfortant dans une démocratie. Ils ont été réprimés par la police de l'ordre. Je suis loin de la capitale, mais ils n'étaient pas autorisés. Et voilà, s'il y a eu débordement, je pense que la police a dû intervenir. Oui, il y a eu ça.
Que pensez-vous de ce référendum ? L'opposition radicale a accusé le président de vouloir s'arroger davantage de pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui, on dit que selon l'opposition et certains analystes, qu'il s'agit d'un tripatrouillage qui va mener au renforcement, à l'hypertrophie des pouvoirs du président de la République. Là, on le dit, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on remarque ça un peu partout, en Turquie et partout. Même en France, on remarque cette tendance à renforcer les pouvoirs et les attributions du président. Mais si ça passe devant les règles de normes démocratiques, il n'y a pas de souci.
Brahim Abarka Sneba était joint à Koumbéni, en Mauritanie. En RDC, libération des journalistes arrêtés lors des manifestations anti-Kabila de lundi dernier, à l'exception de Gary Iwele, venu des États-Unis, qui est encore détenu par le service de sécurité. Eddy Issango a joint à Kinshasa le directeur exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, Joseph Alain Kabongo.
Pratiquement tous les journalistes qui ont été interpellés le 31 juillet ont été libérés et leur matériel de travail ont été restitué, bien que malheureusement les autorités de sécurité et de défense qui avaient confisqué le matériel ont effacé plusieurs images qu'ils avaient pu prier sur les rassemblements des membres de la société civile.
Ces journalistes avaient été arrêtés non seulement à Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces. Est-ce que vous en avez les comptes? Combien étaient-ils? Est-ce que c'est dans toutes les provinces qu'ils ont été libérés?
Bon, nous avons comptabilisé près de 15 journalistes qui ont été interpellés et brutalisés ce jour-là. Mais nous avions également l'information qu'il y avait un journaliste, Gary Iwele, qui était venu, un journaliste indépendant venu des États-Unis d'Amérique, qui était interpellé à Kinshasa par les agents de la DENIAP. Et nous continuons des recherches pour vérifier ces informations et connaître réellement les lieux où ils seraient détenus.
Couvrait-il ces manifestations ou c'était dans un autre cadre?
Bon, les informations à notre disposition, il semble que c'était à l'occasion de ces rassemblements, hein, qu'il était venu aussi faire son travail. Mais jusque-là, nous continuons le recoupement d'informations pour nous assurer que réellement, il avait été interpellé dans le cadre de ses fonctions. Nous continuons le recoupement d'informations et nous sommes toujours à la recherche de ce dernier afin de confirmer non seulement sa qualité et puis qu'il était réellement en train de faire son travail.
Mais quand a-t-il été arrêté? Au moment des manifestations ou ailleurs?
Les informations que nous avons disposées est que nous disposons que juste le jour où les manifestations ont eu lieu, nous avons également que les journalistes venus des États-Unis d'Amérique n'avaient plus donné de ces nouvelles et beaucoup d'informations qui nous provenaient, on disait qu'il était incarcéré, qu'il aurait été interpellé par les membres de la DG de Niap et qu'il serait détenu dans un cachot de Niap.
Donc lui n'est pas dans le nombre de 15 libérés.
Les restes des journalistes qui ont été interpellés, pratiquement une quinzaine, ont été libérés. Leur matériel de travail restitué, bien que le travail ou les reportages qui ont été réalisés, la plupart ont été effacés. Les images ont été écrasées par les autorités, les responsables de sécurité.
Joseph Alain Kabongo est le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les inquiétudes et interrogations que suscitent les rendez-vous électoraux en Afrique. Pourquoi un bon nombre d'Africains n'ont pas ou ont très peu confiance dans les processus électoraux, comme l'indique l'Institut Afrobaromètre? Y a-t-il des différences entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest? Et que faire pour mettre un terme aux irrégularités et fraudes électorales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Fin de la campagne électorale au Rwanda ce mercredi. Dans moins de 48 heures, les Rwandais doivent élire leur président pour les 7 prochaines années. Paul Kagame est largement favori face aux 2 candidats de l'opposition qui sont les grands absents de cette campagne. Faute de moyens, ces derniers n'ont en effet aucune visibilité dans la capitale Kigali. Idriss Fall a joint Charlie Kazereka, envoyé spécial de VOA Afrique au Rwanda.
Pour ce dernier meeting, plus de 50 000 personnes étaient réunies dans la capitale où le président a tenu à féliciter toute la population de Kigali, les donnant un rendez-vous pour le vendredi où les Rwandais iront prochain président pour les 7 prochaines années. Mais une chose à signaler est que les deux opposants ou les challengers de Kagame, Franck Habineza et Philippe Mbayimana, sont considérés comme des jeunes joueurs, comme ils n'ont pas eu, selon leur dire, des moyens financiers pour mener leur campagne. Donc, ils ne sont pas visibles, comme on peut le constater dans la capitale rwandaise. Partout, c'est des photos ou des insignes du parti au pouvoir.
Mais on dit que les résultats, c'est presque connu d'avance. C'est Paul Kagame qui va remporter le scrutin.
En fait, c'est ce que tout le monde dit, et comme ça a été en 2010 où le président Paul Kagame l'avait remporté avec 93% des voix. Et on le voit aujourd'hui à Kigali, comme partout ici au pays, tout le monde chante Paul Kagame, Paul Kagame. Donc, dans moins de 48 heures, on va voir les résultats, mais tout est annoncé déjà. On croit que Kagame va l'emporter avec une large majorité, comme on peut le constater ici en ville de Kigali.
Et qu'en est-il de l'organisation? Est-ce que tout est fin prêt? Les bureaux de vote, les urnes, les cartes d'électeurs?
À mon avis, tout est prêt parce que, si je peux le dire ainsi, je n'ai pas encore vérifié tout, mais tout est fin prêt, comme le président lui-même l'a dit lors de son dernier meeting ou de son dernier adresse aujourd'hui à la population de Kigali, où il y a eu, comme je l'ai dit tantôt, plus de 50 000 personnes. Il fallait voir cette foule immense qui est venue écouter le président Paul Kagame.
C'était Charlie Kazereka à Kigali, envoyé spécial de VOA Afrique au Rwanda.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.